Bonjour à tous, merci d'écouter la page radio. Aujourd'hui, nous sommes en direct de l'écolieu des Perriers pour fêter les 3 ans d'existence du lieu. Tout de suite, vous allez écouter la musique Dernière Danse par Indila.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Bonjour, vous écoutez toujours la page radio et à ce moment précis, j'accueille Johanna et Edel.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le projet de cet écolieu ?
Il n'y a pas vraiment de projet, mais en tout cas, moi, j'en ai pas perçu.
Alors, du coup, il y a quand même un projet qui est de vivre ensemble. On est maintenant 4 familles, on a été 5, on en cherche 2 autres. Et du coup, on a quand même le projet de rénover les habitats ici et d'arriver à vivre ensemble et à décider des règles de notre vie commune. C'est déjà un gros projet.
Du coup, vous êtes 4 familles. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les avantages, les désavantages que c'est
Bah, on doit essayer de vivre ensemble sans trop se disputer, mais après, comme avantage, il y a des gens qui peuvent te dépanner ou vous aider à faire les courses quand t'as pas le temps. etc.
Et un avantage que je vois aussi quand je regardais d'elle auquel je pense, c'est qu'il y a pas mal d'enfants. Donc du coup, on a tous possibilité de vivre avec des amis. Donc ça, c'est un gros avantage. Effectivement, on peut se soutenir. On peut être plusieurs pour construire ensemble. Pendant qu'il y en a qui cuisinent, il y en a qui bricolent, pendant qu'il y en a qui jouent avec des enfants. Voilà.
Ok. On m'a dit que le projet avait commencé en 2021. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça s'est passé, comment vous avez...
Ouais. On était plusieurs familles déjà à avoir envie de monter un projet comme celui-là pour pouvoir vivre ensemble et avec des valeurs autour de la solidarité, autour de l'écologie. Et donc après, on a trouvé cette bâtisse, voilà, en cherchant sur le bon coin. Et on s'est dit, feu, faut qu'on y aille. C'était l'endroit où on voulait être. Et voilà. Et ça s'est fait très vite, du coup.
D'accord.
Je peux dire aussi ce qui nous a motivés à... Quand j'ai dit feu, faut qu'on y aille, c'est que... on avait envie d'être dans la nature et en même temps pas trop loin de la ville ou des écoles, des collèges, etc. pour les enfants. Et ici, on trouvait que c'était chouette. On a 14 hectares de terrain. On a 2 bâtiments à rénover pour pouvoir vivre ensemble. Donc, il y a de la place. On a une source. Voilà, on s'est dit qu'il y avait plein de choses à faire ici.
D'accord. Du coup, comment ça se passe pour tout ce qui est manger ensemble et tout.
Et bah la plupart du temps, c'est chacun qui prépare à manger pour sa famille et on mange chacun dans nos pièces. Mais des fois, on mange avec la famille de Johanna, par exemple, ou des fois, il y a des repas participatifs pour les chantiers éco.
D'accord. Et est-ce que ça se fait... Ça se fait souvent, les événements comme ça, où vous vous réunissez tous ensemble en même temps ?
Bah, assez souvent, mais après, bah, des fois, il y a des moments où ça fait 1 ou 2 mois qu'on n'en a pas fait. Mais sinon, la plupart du temps, ça en fait 2 par mois, un truc comme ça.
Je dirais que les chantiers collectifs, avec du monde de l'extérieur les samedis, on fait 1 fois par mois, avec parfois des scènes ouvertes 1 fois tous les mois, tous les 2 mois, avec des apéros où on invite les gens. Et après, c'est pas des événements, mais après, nous, dans le collectif, tous les vendredis, parmi les adultes, au moins, on travaille pas. Et en fait, on fait des travaux dans le collectif, les réunions pour faire avancer les choses, etc. C'est souvent le vendredi, plus okay. D'autres jours encore.
Et du coup, comment ça se passe pour les chantiers collectifs ? Vous trouvez du coup des personnes de l'extérieur qui viennent vous aider ? Comment vous faites pour les trouver ?
Eh ben, on a un site internet, écolieudesperrières.org, et du coup, donc qui présente le lieu. Et tout en bas de la première page du site, il y a un petit encart « S'abonner à la newsletter ». Et tous les mois, il y a une personne du lieu, en général, c'est Catherine, qui écrit une newsletter pour donner toutes les infos du lieu, des actualités et notamment annoncer les chantiers et les fêtes et les concerts. Voilà. Et donc à partir de là, les gens viennent ou pas.
D'accord. Est-ce qu'il y a besoin de compétences spécifiques pour venir faire les chantiers collectifs ou pas du tout ?
Pas du tout, il y a tout plein de trucs qu'on peut faire. Il y a faire du feu pour le four à pain, par exemple, ou rénover là-haut, mais il n'y a pas vraiment besoin de force ou d'intelligence. Et des fois, il faut besoin de force, des fois, il faut juste du temps, ça dépend.
Ouais, c'est important ce qu'il dit d'elle, parce que dans les chantiers participatifs qu'on organise, on essaye vraiment d'avoir des activités pour entre guillemets tous les goûts. Donc il faut pas forcément des compétences techniques ou être en pleine forme. Il y a des gens qui viennent, ils ont mal au dos, et ils peuvent aider en cuisine ou juste être là pour nous soutenir, assis à nous regarder, nous raconter des histoires. Voilà, on a envie que tout le monde puisse participer comme il peut.
Ok. Et Edel, toi, tu peux nous donner des exemples de chantiers que tu as fait auxquels tu as participé?
Porter des pierres par là-bas ce matin. J'ai aussi regardé ce qu'ils faisaient vers le mur là-bas. Et bah, après, je suis passée là-haut pour voir ce qu'ils faisaient. Mais après, je suis juste allée voir en bas, mais j'ai pas fait grand-chose.
Et cet après-midi, t'as fait le gâteau d'anniversaire.
Oui.
Quand même.
Du coup, ça faisait... Donc, c'est les 3 ans de cet écolieu. Vous êtes fiers de ce projet ou...
Oui.
Oui, carrément. Moi, je suis carrément fière. C'était un beau défi et c'est toujours un beau défi. Et je suis très contente d'habiter là et très fière d'habiter là.
C'est cool. Franchement, moi, j'aime bien.
Comment est-ce que vous êtes organisé pour acheter le lieu ?
Eh ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça s'est fait très vite parce que quand on a visité cet endroit, il y avait plein de gens qui étaient intéressés. Et donc, en fait, on ne s'était pas vraiment complètement bien organisé. Mais en gros, on a dit feu, on met tout ce qu'on a, tous nos sous. Et on a trouvé des gens qui avaient envie de venir vivre là et qui allaient mettre des sous aussi. Et en mettant tout au milieu, on a réussi à acheter le lieu.
D'accord. Merci. Vous m'avez dit que vous cherchiez du coup des nouvelles familles pour habiter ici. Du coup, comment les gens y font pour pouvoir venir habiter ici ?
Eh ben, du coup, ils viennent. Déjà, ils nous contactent par l'intermédiaire du site. Il y a plusieurs personnes qui nous contactent. Ils viennent. Ils nous écrivent, ils nous appellent, on fait souvent un premier rendez-vous téléphonique. Après, ils viennent nous rencontrer, par exemple, sur un chantier ou il y a une fête. Et puis après, il y a différents stades pour, on va dire, l'inclusion. Et donc, ils viennent voir des réunions. Ils peuvent venir aussi. On a installé une cuisine d'été où les gens peuvent venir avec une caravane ou un camping-car ou venir faire un chantier plusieurs semaines l'été ou là, par exemple, en avril. Voilà. Et puis après, on voit si ça colle, si les gens ils ont envie, si nous on a envie, et voilà. On apprend à se connaître.
Et vous avez une limite de durée de combien de temps les gens peuvent rester ou...
Tu veux dire habiter sur le lieu ?
Oui.
Non, on n'a pas de limite de durée.
D'accord. Et si les gens ils veulent. Ils veulent du coup partir de l'écolieu ?
Eh bien, si les gens veulent partir de l'écolieu, ils en informent les autres. C'est déjà arrivé. Et puis, on a un fonctionnement où, en fait, ils récupèrent une partie de l'argent qu'ils ont mis au départ pour le projet, parce qu'on est une SAS coopérative. Et ils récupèrent une partie de leur argent au moment du départ. Et après, progressivement, sur 3 ans, ils récupèrent le reste de l'argent. Ou sur 2 ans, je ne sais plus.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une SAS coopérative ?
Franchement, je ne suis pas la mieux placée pour ça. Mais en gros, on arrive, on met de l'argent pour créer la coopérative. Donc la coopérative existe. Et après, nous, en même temps, on va louer nos appartements à la coopérative. Mais en gros, l'écolieu des Perrières, il n'appartient pas à des personnes. Il appartient à un collectif, à une coopérative. Et même si les personnes s'en vont, eh ben, cette coopérative, elle continuera à exister. Voilà.
D'accord.
C'était un peu l'idée.
Comment ça s'organise la fête comme vous faites aujourd'hui ?
On décide un moment précis pour les fêter. Et après, on invite des gens, on pose des annonces et ils viennent ou pas. Après, on prépare aussi des gâteaux et il y a souvent une scène ouverte.
Et pour organiser, avant, on se dit, par exemple, cette semaine ou même hier, on s'est dit, demain, qui a envie de faire quoi comme chantier la scène ouverte, on avait déjà prévu avant, mais voilà, après... Les pizzas aussi. Qui c'est qui a envie de s'occuper du four à pizza ? Qui c'est qui a envie de s'occuper de tel chantier ? Qui c'est qui accueille les gens quand ils arrivent ? Qui c'est qui aide les personnes à se garer ? On s'organise comme ça entre nous pour qu'on soit à différents postes.
D'accord. Ouais. Et Du coup, qui joue sur la scène ouverte?
Bah, ceux qui veulent, il y a un petit tableau où tu peux t'inscrire et jouer.
Tout le monde peut jouer. On a des musiciens professionnels qui viennent jouer. On a des personnes qui sont en train d'apprendre un instrument, qui viennent essayer, ou des chansons improvisées, des fois, qui s'improvisent.
Vous avez un... On m'a dit que vous aviez un jardin potager. Comment ça s'organise, faire le potager tous vous faites tous ensemble? Est-ce que vous faites... chacun s'occupe un peu de ce qu'il veut, ce qu'il a planté?
Ouais, la plupart du temps c'est ça, mais je veux dire, après c'est pour le collectif, tout le monde peut venir ramasser et venir y profiter, mais la plupart du temps on s'étale pas trop, on garde juste ce qu'on a déjà et on replante au même endroit.
Ouais, quand on a des petites, par exemple s'il y a des personnes, moi j'avais envie, puis toi aussi Edel, je crois, d'avoir une petite parcelle individuelle, où c'est moi qui gère, et en même temps il y a tout le reste où... On plante, on ramasse, c'est plutôt collectif, quoi. Enfin, on a peut-être chacun des petits coins et après le reste c'est collectif. Voilà.
D'accord. Mmh. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Non.
Non, merci pour cette interview. C'était chouette de parler de tout ça.
Merci à vous. Du coup, tout de suite, vous allez écouter la musique Billie Jean de Michael Jackson.
Thank you.
Bonjour, nous sommes toujours sur la page radio et à présent je suis en compagnie de Solène et Margot. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Margot, tu as quel âge ?
7 ans.
Tu as 7 ans et du coup vous êtes les voisines des gens qui habitent dans cet écolieu. Est-ce que c'est bien d'habiter à côté d'un écolieu pareil ?
Oui.
Tu t'es fait des copains ici ?
Oui.
Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais avec eux ?
Bah, je joue avec Eline.
C'est qui Eline ?
C'est ma copine.
C'est ta copine ? Tu joues avec elle, tu joues à quel jeu ?
Je joue aux princesses.
Tu joues aux princesses ?
Oui.
Super.
Ce qui est bien aussi, c'est que les enfants ils peuvent être beaucoup dehors. Hein, y a une grande forêt ici.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites dehors ?
On joue au trampoline et à la tyrolienne.
C'est quoi la tyrolienne ?
Bah, en fait, c'est un fil et on s'accroche à une corde et on va tout en bas.
D'accord. Et comment on remonte après ?
Après, il faut marcher pour remonter.
Et elle est très longue, la tyrolienne ?
Oui.
Ouais, il y a beaucoup de liberté ici. Aussi, on s'occupe des ânes qui sont aux Perrières. Johanna, avec qui vous avez interviewé juste avant, elle est en co-responsabilité avec moi pour les ânes des Perrières. Donc, on va aller s'occuper d'eux. Ça fait, c'est un endroit avec beaucoup de liberté pour les enfants et beaucoup d'enfants. Donc c'est sympa.
D'accord. Et du coup, vous venez souvent ici dans l'écolieu ?
Eh ben oui, j'essaye. Il y a aussi l'écolieu organise pas mal de moments conviviaux. Donc ça permet de créer des moments de rencontre au sein du village ou autour dans la région. Donc des apéros, des scènes ouvertes, aujourd'hui c'est l'anniversaire, des chantiers éco. Aussi moi je suis un processus d'inclusion, ce qui me permet de venir avec légèreté pour s'occuper des extérieurs ou des ânes. Donc je dirais que ça structure la vie sociale aussi, c'est un endroit qui structure la vie sociale du village.
Ok. Est-ce que vous discutez souvent du coup avec les gens qui habitent ici ? Est-ce que les retours par rapport au fait d'habiter ici sont plutôt la plupart du temps positif, les avis sont...
Je dirais que oui, c'est une vie plus intense. Un petit peu comme si on disait, j'habite en couple, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Ça peut créer des défis d'être en couple, et en même temps, on est content d'habiter en couple. Et là, c'est encore plus, parce que ça peut créer des défis d'avoir plein de familles qui partagent la même maison. Donc parfois, il y a de la fatigue et des besoins de se parler les uns avec les autres. Et puis parfois, ça crée plein de joie et plein d'énergie. Et donc comme les habitants sont devenus des amis, on peut parler avec eux, les soutenir dans tous les hauts et les bas de la vie en collectivité. Et c'est très intéressant.
Vous participez aux travaux collectifs ici dans l'écolieu ?
Oui, on participe à des chantiers collectifs à la mesure de nos possibilités parce que du coup Margot a 7 ans, on a aussi Zoé 5 ans et Léane 1 an. Donc en fonction des moments, c'est plus ou moins facile. On s'occupe pas mal des extérieurs et des clôtures des ânes pour que les ânes puissent manger les ronces, faire de l'éco-pâturage. C'est un des projets.
Et du coup, vous aimez bien faire les chantiers collectifs ?
Ah bah oui, en plus, on apprend toujours beaucoup de choses. Moi, ça m'a permis... Je ne suis pas forcément très bricoleuse, même je suis arrivée sans rien connaître. Et donc j'ai appris à tronçonner, j'ai appris à installer un interrupteur, j'ai appris à faire des choses comme ça que j'aurais peut-être jamais fait. Il y a des personnes dans l'écolieu qui ont vraiment du savoir-faire très intéressant, ce qui me permet de, bah, d'être accompagnée. J'ai appris à utiliser une scie circulaire. Enfin, en fait, la plupart de ce que je connais maintenant en bricolage, je l'ai appris au Perrière.
D'accord. Et toi, Margot, t'aimes bien venir ici avec ta maman ?
Oui, j'aime bien.
Tu fais quoi avec ta maman ici ? Du coup, ta maman, elle m'a dit que tu t'occupais des ânes. Comment on s'occupe des ânes ?
Bah, on les brosse.
Ouais. Tu les caresses ?
Oui. Et des fois, je fais des balades avec eux.
Tu fais des balades ?
Oui.
Tu vas loin ?
Non, pas très loin.
Tu vas pas très loin ? Tu restes avec maman ?
Oui.
On les fait brouter principalement, oui, quand on les sort. Mmh. Voilà, bah, je dirais que c'est vraiment un chouette projet. Et puis, un chouette cadre de vie qui permet de fertiliser aussi la vie des gens qui habitent autour. Donc, c'est vraiment une chance d'avoir les Perrières à côté de nous.
Ça vous apporte beaucoup, du coup. Ça vous apporte...
Oui, tout à fait.
Ça vous apporte...
En fait, on a emménagé à côté des Perrières parce qu'on savait que les Perrières existaient et qu'ils étaient en train d'emménager aussi. Donc, c'est parce qu'il y avait les Perrières qu'on est venu ici, parce qu'on savait qu'on avait un projet comme ça qui allait fédérer... la vie locale. Après, il y a d'autres associations locales qu'on a rencontrées aussi et qui participent à fédérer et dans lesquelles les gens des Perrières sont aussi impliqués. Donc voilà, c'est un état d'esprit, je dirais, qui est partagé par pas mal d'habitants de la commune. Et en particulier, les Perrières, ça fait un lieu de retrouvailles vraiment sympa.
D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Non.
Non, c'est tout bon. Merci.
D'accord. Merci beaucoup à vous pour cette interview. Merci beaucoup toujours d'écouter la page radio. Et tout de suite, vous allez écouter Highway to Hell de AC/DC.
Asking
Tout de suite, on enchaîne sur Soprano avec la musique Hiro.
Attends. Ah. Si je suis là, faut bien que je serve à quelque chose.
Qu'est-ce qu'il va me sortir?
Qu'est-ce qu'il va faire?
Regardez.
Wow. C'est un fou.
Et non.
Comment tu as fait ça?
Attends. Avant de souffler sur les bougies,
ouais.
Tu vas fermer les yeux et tu vas nous faire un vœu. Et fais-moi confiance.
Sérieux? Ok.
J'aurais aimé voyager à travers le temps. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yemenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. Pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa, puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort, puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent un nez rouge, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, pour déclencher à 7 heures, une alerte à la bombe dans les 2 tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayo de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport de DF avant que Sia Depuna arrive. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rencontrent jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. 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 J'aurais aimé voyager à travers le temps. Mais. Mais. On ne peut vivre que le présent.
Rebonjour, merci. Encore merci d'écouter la page radio. Maintenant, je suis en compagnie de Hervé. chanteur du groupe Never Too Late.
Bonjour.
Et de Catherine, la maman d'Edel, qu'on a interviewée plus tôt.
Bonjour.
Je vous laisse vous présenter, Hervé.
J'y vais ? Ok. Eh bien, Hervé, donc effectivement, je suis le chanteur du groupe Never Too Late. Never Too Late, on est un groupe local, on va dire. On est sur la même commune que les Perrières. Voilà. Et eh bien, nous, on fait des reprises pop-rock, voilà, très variées, des vieux rock avec des rock plus récents. Et surtout, on est là pour fêter les 3 ans des Perrières. Et nous, en même temps, eh bien, on fête nos 5 ans, 5 ans du groupe. Voilà.
Il y a combien de membres dans le groupe ?
Alors, là, au départ, on était 6. Et puis, il y a eu des départs, c'est la vie des groupes. Et là, on est 3 et ça fait 2 ans maintenant qu'on est 3 et on s'entend très très bien et ça marche très bien. Voilà, on fait des concerts dans la région autour du massif de la Chartreuse.
Et il y a quel type d'instrument dans le groupe ?
Alors, dans le groupe, donc il y a un guitariste, il y a un bassiste et puis il y a un chanteur. Et en fait, on n'a pas de batterie, mais la ligne musicale de la batterie, c'est en fait une piste en fait. Voilà, c'est enregistré en fait. Toute la partie batterie, s'il y a des claviers, quand des morceaux, il y a des claviers, eh bien c'est l'appareil qui met tout ça en route. Et nous, on joue avec.
Et du coup, c'est pas trop dur de suivre la piste quand vous êtes en live ou en direct.
Alors, tu as raison, il faut être très, très attentif, très réveillé, très concentré. Parce que quand on joue avec des musiciens en live, c'est-à-dire avec un batteur, eh bien, le batteur, si jamais il y a une erreur dans une chanson, on se trompe. On appelle ça faire un tour, on répète une ligne musicale, une phrase, hein, des accords musiques, et puis on se regarde et on repart. Tandis que là, avec la partie, on va dire, électronique, le batteur électronique dans la machine, là, il n'y a pas le droit à l'erreur, parce que tout est pré-enregistré, donc on part toujours à 4 temps. Et on a enregistré comme ça, et là, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait.
D'accord. Et vous aimeriez trouver un batteur ?
Alors, écoute, c'est une bonne question. On a voulu chercher un batteur il y a quoi ? C'était en début, fin 2024. Et on a reçu quelqu'un, on a reçu un batteur, à l'endroit où on joue maintenant. Et puis en fait, bah, ça n'a pas fonctionné parce que ça nous faisait changer toute notre liste de musique que l'on reprend, premièrement. Et puis deuxièmement, et ça c'est le plus important, bah, vous allez rigoler, mais on est bien tous les trois en fait. On est bien tous les trois à jouer ensemble, on s'entend très bien, ça marche très bien et voilà. Et donc pas de batteur, pour l'instant on reste tous les trois.
D'accord. Maintenant, je vais poser des questions à Catherine. Catherine, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter qu'est-ce qui vous amène à vous faire interviewer sur cet écolieu ?
Eh ben, moi, j'habite ici. Du coup, je suis maman de 3 enfants et je suis dans le projet depuis le début. Et j'ai envie de soutenir... je suis venue à l'interview parce que j'ai envie de soutenir les élans des gens d'ici. Et Tom est très joyeux de vous accueillir aujourd'hui, donc j'avais envie de venir voir, soutenir. Merci. Et là, j'entends ma fille qui pleure dehors.
Du coup, cet écolieu, il a été créé en 2021, il me semble. Comment ça s'est passé pour créer...
Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà raconté, mais en gros, on se connaissait un certain nombre d'avant, d'autres projets autour des enfants, d'accompagnement des enfants, d'une école alternative dans la région, à Coublevis. Et puis, on avait très envie de prolonger, de créer un collectif où on pourrait avoir des rapports un peu différents entre les gens, plus de soutien, plus de partage. Plus de vivre ensemble, plus d'écoute entre les adultes, mais aussi avec les enfants. Et on a cherché des annonces, on a trouvé le lieu. Et On s'est positionné sur le lieu et ensuite on a recruté d'autres personnes. Voilà. Et parmi ces autres personnes, il y a une famille qui nous a rejoints. Ça, c'était le début d'ici.
D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans le principe de faire un écolieu ?
Eh ben moi, ce qui me plaît dans le principe de faire un écolieu, c'est vraiment d'arrêter d'être chacun chez soi et de me dire que mes enfants, ils peuvent être en relation avec d'autres personnes de référence que moi. Et je peux avoir du relais aussi parce que moi, je suis maman solo. Donc, si mes enfants vont pas bien et que moi, je vais pas bien, il peut y avoir d'autres gens qui s'occupent d'eux. Et j'aime bien l'idée de mettre en commun, de créer de l'énergie. Voilà, j'ai l'impression que quand on est tout seul et on veut faire quelque chose, c'est un peu laborieux. Mais dès qu'on est plusieurs, je sais pas, il y a plein d'idées, plein d'énergie, plein de dimensions supplémentaires. Et voilà, je trouve ça joyeux. Voilà.
D'accord. Du coup, j'ai entendu qu'il y avait votre fille qui pleurait. Vous voulez y aller?
Oui, je passerai bien le relais à mon fils. T'as pas envie de prendre le relais?
D'accord.
Ça vous va si je quitte l'interview, je vais prendre soin de ma fille?
Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci.
Merci.
Du coup, on va enchaîner sur la musique Je m'en vais de Vianney.
J'ai trop qui mes cliques et mes claques, contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier. Qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage. Tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne don, l'envie de m'éloigner de toi, et mes larmes, et mes armes, sont ma peine plus que la haine, et mes larmes, Dieu que j'ai mal, tourne et tourne dans ma tête. Images du long métrage où tu es belle et moi la bête, et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. Je m'en vais.
Bonjour, vous êtes toujours sur la page radio et on vous remercie de nous écouter. Et donc, je, J'accueille donc notre dernière invitée. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, je m'appelle Rémi Picard. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? J'habite à Pommiers-la-Placette. Et voilà, je suis arrivé ici il y a à peu près une heure, là, voilà.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène dans cet écolieu ?
Ah, bah alors, ce qui m'amène, moi, c'est quand même la possibilité de jouer de la musique. En live, avec on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Donc voilà, je dirais que c'est surtout ça qui m'amène au départ. Voilà. Enfin, au départ. Non, pas au départ. C'est des connaissances, voilà, des gens de l'écolieu que j'ai appris à connaître. Et comme il y avait cette opportunité-là, et que je trouve qu'à chaque fois, c'est super intéressant, toujours inattendu. Voilà, c'est des super soirées de musique, j'allais dire libre, spontanée, quoi. Voilà.
Et comment ça se passe en général quand vous venez ici ?
Ah, alors, bah, ça dépend de l'heure à laquelle on vient, quoi. Hein. C'est, la journée, elle a commencé depuis un moment, là. J'ai pas pu participer au chantier. J'ai donné un petit coup de main en arrivant. Après, il y a un moment où il faut donner un coup de main pour installer le son aussi, les instruments, tout ça. Et puis après, on joue de la musique. Ça fait des bonnes soirées.
Et comment vous choisissez les morceaux que vous jouez ?
Ah, ça c'est une vaste question. Hein. C'est vrai que la façon de se comprendre, de s'entendre, de réussir à jouer ensemble. Quand il n'y a rien de vraiment prévu, c'est un vrai truc humain et mystérieux, finalement. Parfois, il y a quelqu'un qui joue quelque chose et puis ça part. Alors moi, je suis assez partisan du fait que la personne qui chante doit avoir le choix autant que possible du morceau. Parce que pour moi, dans le chant, il y a quelque chose de plus exposant, il y a la relation avec les mots, enfin faut être à l'aise aussi avec les mots, faut être pas seulement à l'aise avec la musique, avec les musiciens. Il y a quelque chose, faut vraiment être à l'aise avec la chanson quand on chante, ce qui est pas forcément le cas quand on est sur les instruments. Donc voilà, moi par principe, je serais plutôt à attendre la proposition de la personne qui veut bien chanter, parce que c'est pas facile de se lancer à chanter avec des musiciens qui sont derrière et puis avec un public quand même, même si c'est pas du gros public, il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même ça fait un public. Mais parfois on ne sait pas ce qu'on joue et puis on arrive à jouer ensemble et puis parfois il y en a qui partent sur quelque chose et puis d'autres qui rejoignent. Moi souvent je suis allé au milieu du morceau jouer de la basse, de la batterie, de la guitare, voilà, ça m'arrive souvent.
D'accord. Donc c'est beaucoup de l'impro.
Ouais, on peut dire ça. Après avec des musiciens qui ont un peu d'expérience, l'impro c'est toujours relatif. Hein. Faut pas non plus s'imaginer. Il s'agit de toute façon la musique vivante, c'est de la musique qui est basée sur l'écoute. Hein. Donc quoi qu'il arrive. Enfin, après, c'est ça, on l'entend dans des concerts. Des fois, il y a des musiciens qui sont tellement expérimentés à jouer ensemble, à jouer les mêmes morceaux, que finalement, ça déroule. Et ils ont même plus besoin de s'écouter. Ils ont même plus besoin d'être tout à fait conscients de ce qui se passe sur le moment. Mais la réalité de la musique, en dehors de quand on lance de la musique qui est déjà enregistrée, c'est qu'on est dans l'instant avec les gens qui sont là et avec le son qui est là. Et l'impro, elle est surtout faite de ça. C'est juste de la musique, quoi. Après, souvent, on sait quelle chanson on fait. Enfin, on finit par savoir ce qu'on est en train de jouer comme chanson, quoi.
Et du coup, quels instruments vous jouez, vous ?
Alors moi, j'ai plutôt appris à jouer de la guitare initialement. J'ai chanté beaucoup, enfin, j'allais dire trop, je me suis abîmé la voix, mais voilà. Après, je peux facilement jouer de la basse, parce que c'est quand même une guitare. Je joue un petit peu de batterie aussi, je jouais un peu de clavier aussi, enfin bon, voilà. Bah, faut dire, c'est un peu mon métier, je suis prof de musique quand même, en collège. Donc, vous, ça doit vous parler. Vous avez des profs de musique au collège, donc vous voyez à peu près ce que c'est. Mais voilà, donc c'est, j'ai quand même de la facilité à jouer, pas de tous les instruments, parce qu'il y a des trucs très techniques. Bon, mais on, avec l'expérience et un peu de connaissances, on se débrouille assez facilement avec beaucoup d'instruments, en fait.
D'accord. Et comment est-ce que vous avez eu envie d'être professeur de musique ?
Ah ! Alors, voilà, un sacré dossier encore. comment j'ai eu envie de prendre... Alors, le truc, c'est qu'en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé, pour tout dire à des jeunes comme vous qui êtes en train de vous poser des questions, peut-être, sur ce que vous allez faire. Je sais pas jusqu'où je peux raconter. On a combien de temps, là ? On a combien d'heures ? J'ai un oncle et une tante qui sont morts en laissant des instruments de musique. Et cet oncle et cette tante, j'ai récupéré les instruments de musique dans les deux cas. D'abord un clavier, mon oncle, et ensuite une guitare un peu plus tard. Et j'ai eu très tôt cette sensibilité à la musique. On écoutait très peu de musique chez moi. Il y avait un historique de musiciens plus ou moins dans la famille, mais bref. Au collège, au lycée, c'était facile, mais je m'ennuyais. Voilà, ce qui est les cas de beaucoup d'élèves. Hein, faut quand même, je me permets en tant que prof de musique de rappeler que c'est normal de s'ennuyer au collège et au lycée. Ça fait partie du jeu. C'est même plutôt bon signe. Il n'y a pas de problème. Non, mais voilà. Je sais que ça rassure plein d'élèves parce que il y a aussi plein de parents qui s'inquiètent de ça. Mais je pense que c'est normal. Quand on travaille à 30, évidemment, il y a des moments où on n'est pas complètement dedans et on s'ennuie. Je m'ennuyais beaucoup. Et à la fin du lycée, au moment de choisir quand même une voie, je me suis dit finalement le truc qui me fait envie, où j'ai de la curiosité, où j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, c'est la musique. Donc j'ai commencé par des études de musique et après le bac en fait. À cette époque, j'avais déjà fait un stage en radio en troisième. Donc j'étais déjà un peu sur ce truc-là. Et puis, donc j'ai fait des études de musique avec beaucoup de décalage parce que j'avais très peu de formation musicale. J'étais plutôt autodidacte. Donc ça a été assez dur, mais intéressant, très enrichissant parce que d'un coup, je me suis mis à découvrir plein d'autres choses que pouvait être la musique que ce que je connaissais en tant qu'ado, hein, je dirais. Hein. Et puis après, arrivé à la fin de ma licence, donc là c'était bac plus 3, ça fait. Il y avait le service militaire à l'époque qui me courait après. On était sur la fin du service militaire, l'époque où Chirac avait annulé le service militaire, et moi j'étais vraiment sur les années charnières. Donc j'ai continué les études, j'ai donné des cours de guitare, ce que je trouvais sympa, j'étais déjà animateur par ailleurs. Donc à un moment donné, tout ça c'est devenu un peu comme une évidence, quoi. C'est-à-dire que j'avais fait un parcours d'animateur un petit peu, un parcours de prof de guitare. Je voyais aussi en prof de guitare comment c'était difficile de gagner sa vie. Hein. Et puis j'avais un vécu au collège qui était quand même difficile. Et je me suis dit, peut-être réussir à aller dedans, à rentrer dans ce truc que j'ai trouvé pas facile, que j'ai trouvé parfois pénible, mal foutu. Pour faire les choses différemment, c'est intéressant aussi, ça a du sens. Et voilà, ça fait combien ? Ça fait 22 ans que je suis prof maintenant, un peu plus, 23 ans.
Et vous aimez autant être prof de musique que quand vous avez commencé votre métier ?
Ah. Non, mais c'est des super questions. En fait, la question, elle est pas tellement. Je me pose pas la question en termes d'aimer. C'est que quand on est prof de musique, faut un peu de conviction. Pas trop, mais il faut un petit peu de conviction. Faut, je dirais, pour moi, ma conviction importante, c'est la conviction que je peux apporter quelque chose aux gamins. Pas plus. Souvent, il y a des gens qui s'attendent à ce que je sois très fixé sur la musique, mais finalement, pour moi, enfin, je dis souvent aux élèves, la musique, elle a pas besoin de moi, elle a pas besoin de vous pour se défendre, elle se défend toute seule. La musique, elle fait partie de l'humanité. Je pense qu'elle a besoin de personne pour se défendre. Par contre, les gamins, adolescents, au collège, eh ben, ils ont besoin de présence, ils ont besoin d'avoir des ouvertures, de voir des différentes possibilités. Ils ont donc nourrir ça. Oui, ça me motive toujours autant, au moins, je dirais. Avec le temps, je suis plus sûr de moi et sûr du fait que c'est possible, conscient du fait que c'est pas tout le temps possible. Il y a aussi des élèves que, enfin, j'ai 600 élèves par semaine, hein, donc ça veut dire forcément toucher 600 élèves par semaine, ce serait absolument ridicule comme projet. Mais voilà, il y a des moments partagés au sein de la classe, il y a des moments partagés avec des élèves, il y a la musique qui vient éclairer tout ça aussi. Je le mettrais plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt la musique qui éclaire la classe et la vie de la classe et la vie des élèves que l'inverse. Et ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. Le côté la création des cours, penser à comment organiser les cours, comment créer des situations, comment créer, faire des choix. Tout ça, ça reste passionnant tout le temps. Maintenant, je suis dans un collège plus tranquille que là où j'ai été avant, où il pouvait y avoir l'effet un peu de désespoir quand même, aussi. C'est-à-dire que quand les situations collectivement sont trop difficiles, qu'il y a peu d'ouverture possible, que les gamins sont enfermés dans leur monde, il peut y avoir un côté un peu désespérant.
Bah, merci.
Bah, de rien.
Vous avez quelque chose à rajouter pour la fin ?
Ah non, pas du tout. C'est sympathique. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas livré comme ça, autant avec d'excellentes questions. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup à vous. Et tout de suite, on enchaîne avec la musique Forever Young.
Ah, merci. Forever young. Forever.
Bonsoir maintenant, puisqu'il est bientôt 18h. On est toujours sur la page radio. On vous remercie de nous avoir écoutés durant l'émission. Aujourd'hui, on a interviewé des gens qui habitent ici, des voisines de l'écolieu, des musiciens qui viennent ici pour s'entraîner, pour représenter un peu ce qu'ils font. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que faire cet écolieu, ça les a plus réunis et que ça les a aidés à se faire des amis, surtout pour les enfants, parce que du coup, c'est un endroit où il y a plein d'enfants. Je remercie du coup toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Je remercie également Jordan qui était à la technique. Il peut pas dire merci parce que son micro n'est pas activé, mais il dit merci. Et je remercie Pierre Albert qui est toujours là, qui peut nous prêter le studio de radio et sans qui on peut pas faire la radio. Du coup, merci et passez une bonne soirée. À bientôt. Et tout de suite, on va passer Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Scars of
Page Radio, la web radio des ados.